Vous écoutez les programmes du studio Kalangou. Merci pour la fidélité. Le journal de ce 8 septembre avec Hawa Maman. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest demande à la junte militaire au pouvoir au Mali la désignation d'un président et d'un premier ministre civil d'ici le 15 septembre 2020. C'est ce qui ressort du 57e sommet à Niamey. Eaux de pluie mélangées aux eaux de caniveaux et de fosses septiques, les inondations survenues au Niger cette année risquent d'être aussi des sources de maladies. En partie magazine, nous irons à la découverte d'une coiffeuse Wanzam Sarki Nakone, âgée de 64 ans et chef de coiffeur traditionnel à Argoum, région de Dosso. Le 57e sommet ordinaire de la CEDEAO a pris fin hier soir à Niamey. Les chefs d'État et de gouvernement ont annoncé le maintien des sanctions prises contre le Mali suite au coup d'État du 18 août 2020. Le sommet a particulièrement demandé la désignation parmi les civils d'un président et d'un premier ministre au plus tard le 15 septembre 2020 pour assurer une transition politique d'une durée de 12 mois dans ce pays. Je vous propose un extrait du communiqué final lu par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassibrou, propos recueillis par Michel Déji.
S'agissant de la situation au Mali, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. La conférence maintient les décisions prises lors de son sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens initiées par le Conseil national du salut du peuple. Le président de la transition et le premier ministre de la transition ou de civils devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020.
Les récentes inondations enregistrées au Niger posent de véritables questions sanitaires. Le plus souvent stagnantes, les eaux de pluie se mélangent aux eaux des caniveaux et des fosses septiques et génèrent des risques sanitaires aux populations contraintes de marcher dedans. Docteur Ahmed Daher, un médecin généraliste, nous explique ces risques sanitaires et les précautions à prendre.
Les risques étaient là. Souvent, des fosses sont dehors. Il y a vraiment un véritable risque sanitaire qui est là. Ces inondations-là accentuent cette menace permanente que représente pour la santé la contamination de l'eau par ces fosses et ces caniveaux. Donc, il y a plusieurs maladies que peuvent risquer la population, à commencer par les maladies diarrhéiques que les enfants peuvent être soumis. Et aussi le paludisme qui est aussi notre maladie ou notre voisin de tous les jours. Il y a aussi nos maladies communes qu'on appelle les helminthias intestinales. Il faut forcément avoir une eau potable pour pouvoir éviter toutes ces maladies-là. Le comportement d'abord être propre et aussi être motivé et engagé de savoir elle-même que le boire de l'eau potable est bénéfique pour la santé et aussi de rentrer dans l'eau du peu qu'on peut.
Depuis le début de la saison pluvieuse, les centres de santé intégrés CSI de la ville de Gaya, région de Dosso, enregistrent un pic de cas de paludisme selon l'infirmière du CSI 2 de Gaya. En moyenne, 30 voire 80 malades sont admis par jour, dont les enfants de 0 à 5 ans représentent la grande majorité. Madame Ibrahim Hawa, chef CSI Gaya 2, est interrogée par Fadel Alou.
Chaque jour, nous recevons 30 voire 40 adultes dans notre centre de santé. Quant aux enfants qu'on amène, l'on ne peut même pas estimer leur nombre. Mais les femmes enceintes ne viennent pas en grand nombre. Ainsi, nous avons constitué des groupes pour les soins. Et la gratuité des soins est effective pour les enfants de 0 à 5 ans. Dieu merci, notre centre de santé est doté de divers médicaments contre le palu. Les femmes enceintes, dès leur arrivée, sont immédiatement prises en charge. Et pour les personnes qui se présentent avec des vomissements, nous les gardons quelque temps pour leur faire des injections afin de stopper les vomissements.
Le Niger est un pays qui combat efficacement la traite des personnes, a déclaré hier la directrice générale sortante de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes à la passation de service à son successeur. Selon Gogé Maimouna Gazibo, c'est grâce aux efforts de l'État et les différentes actions menées par l'agence que le Niger, qui était classé en zone rouge relativement à la traite de personnes, est classé au vert par le département d'État. Des propos recueillis par Rafika Attaher.
Le premier challenge, quand je suis arrivée, c'était d'abord extirper le Niger de la zone rouge. Ça a été d'abord de modifier le décret qui crée l'agence pour ouvrir l'agence à tous les profils, en faire une véritable administration avec des bureaux régionaux au sein de chaque tribunal de grande instance. Ensuite, le Niger a pris un décret pour instituer une journée nationale de mobilisation chaque 28 septembre. Ensuite, nous avons anticipé sur les conséquences désastreuses de la migration et la loi 2015 relative au trafic illicite d'immigrants a été adoptée. Le Niger a fini par sortir d'abord de la zone rouge pour être dans la zone orange, donc en observation, et le département d'État a fini par nous mettre au vert comme étant un pays qui combat efficacement la traite des personnes. J'ai confiance que le nouveau va continuer nos engagements.
La faculté des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey a organisé samedi dernier une cérémonie de remise de diplôme de doctorat à 23 récipiendaires de la première promotion de sa section pharmacie créée en 2012. Selon le doyen de cette faculté, cette formation permettra de réduire le déficitaire taux d'un pharmacien pour 100 000 habitants au Niger. Professeur Sani Rachid est au micro de Michel Deji.
Avant tout, les pharmaciens étaient formés à l'extérieur. Au niveau de la faculté des sciences de la santé, nous avons formé les premiers pharmaciens au Niger. Cette formation, elle est faite selon le programme régional qui est enseigné dans toutes les facultés des sciences de la santé où on forme les pharmaciens. Donc, quand ils ont fini, ils sont aptes à travailler. D'ailleurs, ils ont tous été recrutés et on les a fait revenir de leur lieu de travail où ils exercent pleinement leur métier de pharmacien. C'est 6 ans de formation après le bac et après soutenir une thèse. Et c'est pour ça qu'ils sont docteurs en pharmacie. Nous avons apporté 23 nouveaux pharmaciens au ministère de la Santé. Puisque vous savez, aujourd'hui, il y a un pharmacien pour 100 000 habitants. Donc, il faut dépasser ce déficit pour que désormais, l'accès à la pharmacie soit possible à la majeure partie de la population du Niger.
Une alliance de 16 organisations nationales et internationales a lancé une campagne de lutte contre l'inégalité au Niger et procédé à la signature d'une charte unifiée. Cette campagne vise entre autres à mener des plaidoyers et à dénoncer toute forme d'injustice ou discrimination faite à l'endroit d'une catégorie de couche sociale. Écoutons les explications de Chiroma Ahmadou Ali, directeur pays par intérim d'Oxfam Niger, interrogé par Rafika Attaher.
La cérémonie que nous réunit aujourd'hui, c'est pour vraiment signer une alliance contre les inégalités au Niger avec plusieurs organisations de la société civile, dont Oxfam a pris le leadership, de s'engager et de faire engager les autres dans cette lutte contre les inégalités au Niger, soit inégalités sociales, économiques et culturelles, ainsi que suit. Notre engagement était d'apporter quelques éléments de réponse par rapport à ces inégalités. Donc on sait que de façon isolée, nous ne pouvons pas apporter une réponse à justifier, mais en impliquant tous les acteurs de la société civile, nous pensons apporter donc une contribution pour mettre fin à toutes les inégalités au Niger. Dans toutes les statistiques, nous avons pu voir les inégalités d'ordre climatique, en termes de l'éducation, en termes de santé, etc.
Dans les communes de Madarumfa et Gabi, région de Maradi, les commissions foncières de base sont un véritable instrument de prévention et de gestion de conflits fonciers. Selon le secrétaire permanent du code rural, la contribution des femmes est inestimable dans la gestion de ces conflits. Gallo Badagé est au micro de Mohamed Maman.
Le travail des COFOB, c'est la sécurisation foncière de proximité. Tout ce qui concerne les actes d'accès et d'usage du foncier, notamment les attestations d'héritage, de vente, de donation, de contrat de gage, contrat de prêt et contrat de location. Il assure aussi le contrôle des mises en valeur pour voir par rapport à certaines ressources partagées, notamment pour les aires de pâturage ou les couloirs. Est-ce que ces ressources-là ne font pas l'objet d'être accaparées par d'autres individus? Vous savez, les femmes ont des capacités, si elles interviennent dans le règlement ou dans la conciliation, elles sont plus patientes et elles pourront facilement avoir des résultats. Et la preuve, dans ce village, les résultats qu'ils ont présentés, c'est vraiment fantastique parce que même les conflits entre les femmes et mari, qu'elles interviennent quand même, elles arrivent à régler ça.
Autonomisation des femmes à Avlit dans la région d'Agadez du 21 au 28 août 2020. Le réseau des jeunes pour la promotion de la formation professionnelle et technique a initié à Arlit une formation sur la fabrication des produits cosmétiques, savon, parfum ou encens à 96 femmes. Des attestations ont été remises à ces femmes au bout de leur formation. Ali Alassane Amoumoun, conseiller du réseau au micro d'Ousmane Oumarou.
Au départ, nous avons l'intention de former 15 femmes en produits cosmétiques, plus précisément les parfums que nous avons l'habitude d'appeler Trarangouta. Ensuite, les savons que nous faisons. Mais vu les besoins et aussi les demandes que les femmes font face du fait qu'ils n'ont pas une occupation, ils n'ont pas un travail à faire à la maison qu'à faire préparer, ils ont répondu massivement. Du nombre 15, on est parti jusqu'à 96 femmes qui ont demandé cette formation. Pour satisfaire leurs besoins, on est de l'obligation de les accepter parce qu'on pense qu'en leur donnant cette opportunité, ils auront une occupation même étant dans leur maison conjugale. Et cela va compléter sans nul doute leurs besoins d'abord dans la ville et aussi l'économie locale. Parce que je suis sûr que parmi ces femmes, beaucoup auront à entreprendre, beaucoup auront à travailler à base de cette formation qu'ils auront et beaucoup auront à avoir l'esprit de s'autonomiser, de rester et de produire eux-mêmes, entreprendre eux-mêmes. Nous avons procédé à la remise des attestations après la formation.
Hey Issa, cette histoire de Covid-19 me rend malade. J'ai peur, je me sens mal tout le temps et sans te mentir, j'ai peur de tout le monde. Je ne fais que lire les infos sur cette maladie sur les réseaux sociaux.
C'est normal d'avoir peur. Depuis le début de cette pandémie, je t'ai souvent répété de faire attention à tout ce que tu lis sur les réseaux sociaux. Ce sont des fausses informations pour la plupart.
Mais que dois-je faire? Où aller alors pour me tenir informé?
Informe-toi sur le site officiel de l'Organisation mondiale pour la santé et les plateformes d'information des autorités de santé du Niger. La connaissance des faits peut t'aider à réduire la peur.
Cette fois-ci, je tâcherai de suivre tes conseils. Je me rends compte qu'il y a tellement d'informations et de fausses rumeurs qu'il faudrait qu'on lutte contre la désinformation. En effet, à cause de la peur, je dors moins et je suis tout le temps fatiguée.
Une dernière chose. Pense à tout ce que tu as vécu de positif dans la journée et prends la vie du bon côté. Focalise toute ton énergie à sensibiliser les gens sur les mesures préventives à respecter. Rappelle aux gens que la maladie existe toujours et que l'assouplissement de certaines mesures prises par l'État ne doit pas rimer avec le lâchement des gestes barrières.
D'accord, merci Issa.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Nous arrivons à la partie magazine de ce journal. Âgée de 64 ans, Saraki Nakone est une Wanzam coiffeuse traditionnelle à Dogondouchi, région de Dosso. Chef des coiffeurs Wanzam à Argoum, son village natal, Saraki reconnaît qu'être à la tête de tous ses praticiens hommes n'a pas été chose aisée. Pour cette sexagénaire, le métier de Wanzam est l'héritage que lui a légué son père, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille et d'asseoir sa renommée, a expliqué Saraki Nakone au micro d'Abdulaziz Dayouma.
Sincèrement, j'ai hérité de ce métier. Si ce n'est pas un héritage, vraiment la personne ne peut pas l'exercer. Je l'ai bien hérité, car même mon père a été 3 fois chef des barbiers.
Dans ce métier de coiffeuse traditionnelle, quels sont les types d'activités que vous menez?
Je coiffe les gens, je fais la circoncision aux enfants. J'enlève aussi les lacunes qui empêchent les enfants de mieux s'exprimer. Mais j'ai arrêté car on nous a appelés au CSI pour nous empêcher. Et depuis, j'ai complètement arrêté. J'ai même fait cadeau de mes ustensiles. Je donne uniquement les médicaments en cas de besoin. En dehors de ça, je fais des cicatrices au visage des personnes qui le désirent. J'ai présentement appris à beaucoup de personnes la circoncision. De Maradi à Agadez, voire Zender, si les gens le désirent, je peux leur apprendre le métier du barbier.
En général, ce sont les hommes qui exercent ce métier de coiffeur. Et vous voilà en tant que femme parmi eux. Vous ne rencontrez pas de discrimination avec eux, cela?
J'ai rencontré pas mal de problèmes. Les jeunes disent qu'ils ne vont pas se mettre derrière une femme. Je leur fais comprendre que ce n'est pas un complexe pour moi. En tant que femme dirigeante, s'il m'arrive de trouver un homme, même si c'est un jeune, je peux le suivre. Car l'homme est toujours au-dessus de la femme. Je ne trouve pas de problème pour ça. Un jour, tout finira. Il faut juste faire preuve de patience. On n'a pas de problème entre nous. Ils me respectent beaucoup.
Quels sont les avantages que vous avez eus à travers cette activité?
Alhamdulillah, j'en ai beaucoup bénéficié. J'ai une bonne réputation. Partout où je vais, les gens me reconnaissent. Mon titre de chef des barbiers de Dogondouchi résonne dans tous les coins de mon pays, y compris l'extérieur. Vraiment, j'ai eu beaucoup d'avantages.
Que peut-on retenir de vous par rapport à la vie conjugale, votre époux et vos enfants?
Mon mari est décédé. J'ai 4 enfants, 2 garçons et une fille. J'ai 15 petits-fils. Présentement, grâce à Dieu, je prends 13 personnes à ma charge.
Le forum Espace Femmes d'aujourd'hui parlera de l'implication des femmes nigériennes dans les microfinances. Mata Massou Doubara, qui signifie femme ingénieuse, c'est avec Rafika Attaher.